Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépété, pépé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le bruit de la bétonneuse, l'odeur du clou de girofle, le bruit du travail ouvrier, l'odeur de l'exil ravivé par lui. Tout se passe comme si l'entrée dans votre dernière exposition au Macval, Kader Attia, retournait comme un gant la tristement fameuse sortie de Jacques Chirac en visite dans un grand ensemble en 1991, le bruit et l'odeur. Deux choses invisibles pour parler des familles qui vivent dans les grands ensembles en banlieue des grandes villes. Voilà aussi quelque chose que vous retournez et questionnez du même coup. L'invisibilisation des corps, la dissolution parfois dans la haine de soi, la violence architecturale, quasi carcérale de certains grands ensembles d'immeubles qui rajoutent du déracinement à la perte de son pays. Une violence dont vous faites l'hypothèse avec d'autres qu'elle est très directement rattachée à une violence impériale, coloniale ou esclavagiste. Pour autant, Kader Attia vous signe avec un titre de résistance en appelant votre exposition comme le livre qui l'accompagne, Les racines poussent aussi dans le béton. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Le livre est publié aux éditions Macval. On y lit des textes qui ont été travaillés pour l'occasion, certains reproduits, certains produits, par exemple de Françoise Vergès ou d'Olivier Marbeuf. Et quant à l'exposition, elle est visible en ce moment au musée Macval à Vitry. Je dis que la première chose qui m'a frappée en entrant dans l'exposition, c'est un couloir où on voit des photographies avec des montages. Au bout à gauche, la diffusion de deux films, et au bout à droite, une installation dont on va reparler tout à l'heure, avec du sable. Ce qui m'a frappé, c'est le bruit qu'on entendait au loin, et l'odeur très très forte, j'ai mis quelques secondes à me dire que c'était du clou de girofle, deux choses qu'on n'identifie qu'après bien des pas dans l'exposition pour se trouver face à cette bétonneuse. Comment vous est venue l'envie ou l'idée que l'on soit d'abord frappé par ça?
Alors l'idée déjà c'était de envisager le rapport qu'aurait le spectateur avec l'exposition comme celle d'un parcours initiatique qui permettrait à sonder à travers l'espace mais surtout aussi à travers le temps toute cette histoire finalement non écrite des grands ensembles en fait puisque finalement, qu'est-ce qu'on sait des grands ensembles? Comme vous venez de le dire, on a en mémoire des clichés, des phrases comme ça, polémiques et politiques, je pense, comme le bruit et l'odeur de Chirac ou l'usage du Karcher par Sarkozy. Mais jamais on se pose la question de savoir, finalement, dans ces grands ensembles, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une culture? Et en fait, bien évidemment, l'image qu'on a de la société française, je le ressens très fortement depuis que je me suis un peu exilé à Berlin, à chaque fois que je reviens, même si je reviens même une fois par mois à Paris, pour le projet La Colonie, c'est celle d'un pays de ville finalement haussmannienne, impériale en fait, dans laquelle les paysages urbains des grands ensembles n'existent pas en fait. Il y a une espèce de comme ça déni d'une réalité architecturale méprisée d'ailleurs que celle du béton. Or, si on commence par nier une architecture, on nie aussi la vie qui en émane. Or, cette vie est une culture. Il y a des cultures. Il y a une subculture des quartiers qui s'exprime, qui s'est exprimé, on l'a vu de manière très différente, du hip-hop à la littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de proposer aux spectateurs de revoir à travers un parcours initiatique qui fonctionne en différents actes, un peu comme un opéra aussi, avec des contrastes d'espace et de juxtaposant des pièces ou des couloirs étroits à des grands, très grands espaces, de manière à lui raconter justement comment tout cela fonctionne, en tout cas d'un point de vue personnel, évidemment. Je préfère parler de ce que je connais, donc à travers à la fois un regard historique, critique, pas forcément négatif, parfois aussi, critique, je dirais, constructive, et peut-être positive, mais aussi à travers des en allant et venant entre un aspect très théorique de l'approche de ces questions et très personnel, en fait. Par ma propre histoire, mais aussi par le point de vue de certaines personnes qui sont interviewées dans les deux films, par exemple. Donc voilà. Maintenant, il y a une chose que vous avez dite qui me paraît extrêmement intéressante, peut-être pas comme lapsus, mais en tout cas comme détail, c'est que vous dites, à un moment donné, on arrive dans un couloir, il y a donc ces films, et à l'opposé, une installation avec du sable par terre. En fait, c'est du couscous. Voilà.
Mais c'est très bien, en plus, parce que c'est exact, c'est le titre, c'est contenu dans le titre de l'œuvre.
Voilà, d'accord. Et en fait, c'est intéressant que vous dites ça, parce que lorsqu'on travaille à un médium, je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, à un moment donné, on dépasse la connotation formelle du médium, et qui plus est, parce que le couscous, qui est un élément jaune, en fait, sur du noir, donne le contraste chromatique peut-être le plus élevé dans la gamme chromatique, c'est-à-dire le rapport jaune-noir. Et en y ajoutant de la lumière très chaude, en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais, en fait, fait la relation, or, dans cette exposition.
C'est pas vrai.
Ah oui,
mais pour moi, je vois Gardaïa, en fait.
Il y a Gardaïa, mais il y a, on pourrait, comme ça, effectivement, penser aux dunes aussi, de sable, du désert, mais, si vous voulez, cette référence formelle, elle est plus métaphorique, tandis que la manière dont vous l'avez citée me frappe. Effectivement, ça pourrait être du sable, en fait, tout simplement. Sans forcément l'associer à une représentation de la carte, de la cartographie de la ville de Gardaïa. Et lorsque vous avez parlé du sable pour terminer sur la bétonnière, on est effectivement là dans avec cette œuvre, effectivement, dans quelque chose qui suggère déjà ce qui nous attend à la fin, puisque la bétonnière, c'est un mélange de sable et de ciment et d'eau.
Sauf que vous n'y mettez ni sable, ni ciment, ni eau dans cette bétonnière, vous y mettez des clous de girofle.
Voilà. Parce que j'ai essayé, notamment avec cet objet qui tourne et qui brasse ces clous de girofle, non pas forcément de produire cette odeur, ça c'est une des conséquences admirables du projet, mais surtout d'essayer de réunir en fait le souvenir de mon père et le souvenir de ma mère. Mon père était un constructeur, fasciné par le bâtiment en fait, par le travail manuel aussi. Et ma mère, jusqu'à aujourd'hui, fascinée par la cuisine, les épices, dans une fascination nostalgique en fait, toujours liée à l'exil, chaque épice correspondait à une région, à une famille, à une religion aussi, des communautés qui ont vécu en Algérie, chrétiennes, juives, musulmanes, etc. Il y a toute une quantité de récits incroyable que je garde aujourd'hui et qui tourne autour des odeurs en fait, de la menthe et du piment. Il y a aussi d'ailleurs dans l'exposition, absolument, qui s'appelle Doux Amer et qui est vraiment cet oxymore que constitue aussi l'émotion générée par la menthe à la fois fraîche et douce. Et le piment, comme ça, très sourd, en fait, et le piment rouge séché. Mais voilà, je l'ai vraiment imaginé comme, finalement, je pense, l'architecture, en fait, cette exposition. Puisque, d'abord, l'exposition du Macval, qui a lieu dans un grand espace rectangulaire, dès le départ, m'a semblé être un challenge non pas pour les yeux mais surtout pour le corps du spectateur en fait. Donc j'ai redessiné tout l'espace à partir d'une maquette dans mon atelier. Pendant plusieurs mois, j'ai imaginé donc ces couloirs, ces pièges, j'ai tout maquetté et puis en accord avec l'équipe du musée, nous avons construit ces couloirs. Donc déjà avant de mettre des œuvres, j'ai conçu l'espace. Pourquoi j'ai conçu l'espace ? J'ai conçu l'espace parce que on est lorsqu'on regarde une exposition ou une œuvre, on n'est pas seulement des yeux qui regardons, hein. C'est ce que nous explique Merleau-Ponty dans sa phénoménologie de la perception. Le corps regarde aussi. Et le rapport que va avoir votre corps avec certaines œuvres visuelles ou sculpturales est fondamental.
Ou sonore. Il y a quand même une œuvre où c'est une pièce plongé dans le noir avec un son, enfin, dont on reparlera tout à l'heure, mais c'est voilà. Clairement le corps qui ressent.
Absolument. Et donc, ou sonore, absolument, ou olfactive aussi. Si vous voulez, il y a dans mes préoccupations de plasticien, à la fois politique et poétique, une idée d'impliquer au-delà, en fait, de l'image, le spectateur. C'est-à-dire vraiment aller chatouiller sa psyché, son inconscient, en fait. Et effectivement, il est amené à déambuler dans des rapports d'échelle, de distance avec les œuvres de manière très différente. Parfois, on doit s'approcher très près parce qu'il y a une petite carte postale à regarder. Et au contraire, parfois, on est presque tenu à distance par une œuvre très grande. Il y a vraiment cette idée de prendre en compte le corps du spectateur, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été convaincu que l'architecture, c'est avant tout le corps, en fait. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez la personne que je regarde en face de moi, c'est pas cette personne. La personne, c'est l'esprit de la personne. La personne que vous avez en face de vous n'est pas ce corps n'est pas Kaderatia. Kaderatia, c'est l'esprit de Kaderatia. Et tous les auditeurs qui nous écoutent sont avant tout des esprits. Bien sûr, parfois l'esprit et le corps se réunissent, fusionnent, mais ils ne sont pas en fusion en permanence. Il faut relire le corps utopique de Michel Foucault, cette conférence admirable d'ailleurs où il est tellement admirable qu'il se contredit lui-même et du coup il revient justement à faire cette différence entre le corps et l'esprit et à les réunir. Finalement, l'esprit occupe un corps comme une architecture et le corps occupe l'espace, soit du musée ou du lieu où nous nous trouvons, ou l'espace extérieur, comme l'esprit occupe un corps. Il y a une sorte de, comme ça, de continuum qui me fascine, qui me paraît extrêmement important en particulier lorsqu'on est sculpteur quand même, parce que le rapport à l'espace, en sculpture ou en architecture, il est encore une fois pas un rapport objectif, il est à la fois objectif et subjectif. On regarde une chose et on est dans la chose, en fait. Et ça, dans un flux d'aller-retour qui est incessant. Donc, dans cette exposition, la première des choses qui m'a semblé importante, c'était de remettre le corps au centre de la question de l'architecture, parce que finalement, puisque cette question essaie de réfléchir à une lecture de l'héritage moderne du logement social aujourd'hui, il me semblait fondamental d'abord d'en faire la généalogie, alors. J'ai donc commencé par remettre dans un premier espace qui est constitué comme un long couloir cabinet en fait, une documentation d'archives photographiques de la fin du 19e, du début du 20e, de collages aussi, de sculptures que j'ai réalisées, qui rappelle quand même la considérable influence qu'a eu l'architecture vernaculaire algérienne, notamment de la ville de Gardaïa, sur des architectes comme Le Corbusier, par exemple. Il n'est pas le seul, hein. Pouillon, Ravero, beaucoup d'architectes ont été influencés. À chaque fois que je rencontre un architecte aujourd'hui qui a 70 ans, suisse, espagnol, la semaine dernière barcelonais, il est allé à un moment donné à Gardaïa. Gardaïa a été à un moment donné une sorte de pèlerinage pour les architectes. Et moi, ce qui m'intéresse... Dans cette histoire, c'est, vous l'avez compris, le rapport colonial qu'on a eu avec cette connaissance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une sorte d'opacité sur l'origine de cette architecture qu'on dit moderne aujourd'hui, ou au moins sur certains principes. Hein, quand Le Corbusier revient de Gardaïa en 1931, il applique dans la charte d'Athènes des principes qu'il va trouver à Gardaïa.
Sans le dire, vous voulez dire ?
Comment ?
Sans le dire ?
Il le cite pas, Le Corbusier, il le dit pas.
Contrairement à Pouillon.
Il le dit bien plus tard. Oui, mais c'est bien plus tard. Mais Le Corbusier, j'ai trouvé une conférence à Harvard où il parle de la cité radieuse en disant c'est ma Beni Hisgen verticale. Et Beni Hisgen, c'est le nom berbère de Gardaïa, en fait. Du top de la colline de Gardaïa. Mais il est, à ce moment-là, il rencontre Luis Barragán à Paris, l'autre grand moderniste. Je sais pas si vous connaissez ses architectures, mais quand on va à Mexico, au couvent des Carmélites, on est sidéré par l'analogie avec l'architecture du Mzab, donc de Gardaïa. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de travailler à cette décolonisation des savoirs, en fait. Dans le cas de l'influence de l'architecture du Mzab, de l'architecture traditionnelle du Mzab qui date du 11e siècle et qui va s'étendre jusqu'au 19e siècle dans 5 ksar, donc un ksar est une médina en fait du désert, On a quand même des traces très précises hein, que j'ai pu retrouver à travers mes recherches, notamment le doctorat d'un architecte suisse qui s'appelle Alexandre Gerber, Le Corbusier, Le Voyage d'Orient, publié je crois en 94, si je me souviens bien, mais en tout cas cet essai est extraordinaire pour retracer les lignes qui partent, dont les points de fuite en fait démarrent à Gardaïa en 1931, ou 30 quand Le Corbusier se trouve à Gardaïa, jusqu'à la chapelle de Ronchamp, bien qu'elle soit construite en 1957. Il est déjà, lorsqu'il rentre, très fortement influencé par Gardaïa. Il suffit de regarder les façades, les murs de la chapelle de Ronchamp, et notamment ces fenêtres qui isolent le paysage et créent des espèces de magnifiques tableaux vivant de la nature, mais aussi, peut-être surtout vraiment propre au Mzab, ce sont les niches qui sont creusées dans les murs et qui permettent d'y poser des livres, en fait. Le Corbusier, qui tire justement, un peu comme Picasso finalement, avec les arts anciens d'Afrique, une forme nouvelle dans une période où les architectes modernes se tirent la bourre, si je puis me permettre, sont dans une compétition très 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 forte entre Mies van der Rohe, entre Gropius, etc. Le Corbusier se distingue avec ce projet admirable qui est la Cité radieuse, qui va un peu dans la continuité aussi, il ne faut pas l'oublier, des familles Lister du 19e siècle, essayer d'imaginer un logement social où on retrouve dans la même structure l'épicerie, l'école, la piscine sur la terrasse. Et d'ailleurs, il appelle, c'est pour ça qu'il appelle ça Benishken, les couloirs de la Cité radieuse, des rues en fait. Donc une sorte de vie comme ça, collective, dans une infrastructure de béton qui relève en fait du bon sens architectural. La grande ironie de l'histoire, c'est qu'il va avoir à un moment donné un détournement en fait des grandes lignes du grand projet utopique moderniste du logement collectif par le pouvoir politique et économique. Et ce pouvoir économique va d'abord rationaliser à minima en fait le confort d'habitation, le rapport à l'espace extérieur, intérieur, la situation géographique de ces immeubles. Les grands ensembles vont être des cités qu'on va construire loin des villes. C'est pour ça qu'ils vont devenir des cités dortoirs.
Bah pas à Alger.
Plus tard. Là je parle pas de Dar es Saada et de Climat de France. Là effectivement on est.
Là on est vraiment en remplacement de bidonville, oui. À Bab El Oued. Tout cas pour Climat de France.
Vous avez tout à fait raison. Dans le cas d'Alger et même de certaines cités des grandes villes, on est dans les grandes villes, mais on reviendra plus tard. Notamment ce qu'on appelle les cités dortoirs. Donc. Dans le cas effectivement des constructions de Pouillon à Alger, on a un désir utopique de pouvoir rationaliser et offrir un logement confortable pour, selon les messages qu'on connaît, les musulmans et les chrétiens occidentaux. Mais la réalité surtout politique de cette période, c'est que l'Algérie coloniale ayant été non seulement totalement dévasté à l'intérieur des terres et pas du tout développé, les grandes villes comme Alger, Oran, Constantine et en particulier Alger sont entourées de bidonvilles. Il y a une exode rurale due à l'après-guerre et à la famine en fait qui fait exploser les périphéries d'Alger et qui inquiète les politiques parce qu'il y a une criminalité inimaginable. Et donc, il faut pas se leurrer, les projets des grands ensembles. Est-ce qu'on peut appeler ça des grands ensembles d'Dar es Saada? Je crois pas. On n'est pas encore dans les massives barres HLM qu'on connaît en banlieue de France.
Déjà, c'est de la pierre de taille et pas du béton. Et l'organisation de l'espace de ces trois cités-là, parce qu'il va y avoir trois grands projets portés par Pouillon et Chevalier, sont en effet assez peu similaires, peut-être aux grands ensembles qu'on va beaucoup critiquer dans les années 70, Kader Attia. Mais en tout cas, vous en faites une forme de possible généalogie.
Oui, parce que je crois pas à la spontanéité des choses. Tout coule comme ça, comme une rivière. Et si vous voulez, la citation le fait que nous évoquons là maintenant les constructions de Pouillon de Dar es Saada, c'est pour moi ni plus ni moins qu'une transition entre ce qui s'est passé avec Le Corbusier et la Cité radieuse et les grands ensembles qui vont arriver après. En fait, pour résumer, je vais essayer d'être plus succinct. L'Algérie a été le laboratoire des banlieues. L'Algérie coloniale a été le laboratoire des banlieues. Tous les principes de discrimination par la géographie, par le logement, de l'annihilation de la subjectivité des habitants par en les incluant dans des logements qui se ressemblaient tous, qui avaient des formes carrées sur des structures orthogonales ou parallèles et perpendiculaires sont presque une analogie avec les boîtes aux lettres. C'est une chose qui m'amuse beaucoup, ça, à chaque fois, de voir comment les boîtes aux lettres ressemblent aussi aux immeubles. Il y a une sorte d'effacement comme ça du sujet.
Vous en faites une installation, d'ailleurs.
Voilà. Donc, j'ai essayé d'être succinct.
Le fond de la question, c'est la forme donnée à ces grands ensembles. Et cette forme est une forme d'architecture qui a été voulue par notre école d'architecture, directement inspirée par Le Corbusier. C'est-à-dire des immeubles hauts, sévères, uniformes, avec des espaces verts, dont la rue est supprimée, ne l'oubliez pas. Le Corbusier était très hostile aux rues. Autrement dit, Le Corbusier et son école ont voulu vraiment se détourner complètement des formes de ville que nous connaissons. Ils ont voulu en créer une nouvelle. Et cette nouvelle, c'est celle que nous voyons dans les grands ensembles.
Vous comprendrez bien que ça n'est pas une directive ministérielle qui peut garantir le talent de chaque créateur d'architecture et d'urbanisme. Mais il appartient bien au ministre de poser quelques garde-fous. Or, quand on constate ce que peut avoir de grave la médiocrité urbanistique et architecturale d'un grand ensemble, ça vaut la peine de les interdire. Que, ici ou là, les petits ensembles que l'on fera, on en trouve quelques-uns qui seront de qualité médiocre, c'est bien vrai, mais à petite dose, à petite échelle, on peut penser que cette médiocrité architecturale sera moins nocive que lorsqu'on la rencontre de manière très concentrée.
Je pense, si vous voulez, que s'il y a un jour une transformation sociale, elle partira d'une sorte de révolte contre l'urbanisation actuelle. Parce que les conditions dans lesquelles on fait vivre les hommes, et les femmes, et les enfants, sont des conditions qui ne sont pas humaines. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la vie et de l'existence pour voir quel est ce qu'il faut d'espace à l'homme, on est parti d'une sorte de conception abstraite. On a essayé de penser d'abord construction et dans grands ensembles, c'est-à-dire on a essayé finalement de faire des éléments de prestige. On a essayé de dire, voyez, nous logeons tout le monde. Seulement, autre chose est loger les gens, autre chose est donner un espace à l'homme. Ici, l'espace nécessaire pour la vie, l'espace qui permet à la fois les rapports humains, ce qui est fondamental, qu'est-ce que c'est finalement que la vie, c'est d'avoir des rapports et des échanges avec les hommes, avec les autres. Et là, les ensembles actuels ne le permettent pas.
Les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture.
Ouais, Bilal, il s'en va.
Monte, Bill, elle mouille, hé, hey, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, Mikarim, pour ton du bled.
Ton du bled.
Pour tous les Miss Mourt. Bled de bledi.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, deux jours, le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Guido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warren. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à rouler mat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoum sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de zinc. De la traversée du désert au beau couscous de Yema. Et mon cousin me dit
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards on tape la discussion. On ne peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande
Saha t'araf Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars. Unar. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux disparus aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité.
Arbeya,
content de revoir mes potos
et ma chebba.
Pendant deux semaines, j'ai mangé
que de la charba.
J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis.
C'est un remix du très fameux morceau de 113 par Paloma Colombe dans un mix très récent. Et juste avant, on entendait trois paroles de 1973, dire beaucoup de choses, parler de la médiocrité architecturale, et puis j'ai pris en note une des dernières phrases de Jacques Duvigneau, parler d'une révolte contre l'urbanisme, dire surtout qu'il y avait une négation de l'espace nécessaire à la vie, que donc il n'y avait pas de rapport humain. Ce que dit cette chanson de 113, ce qu'elle disait à l'époque, et ce qu'elle dit là en la réécoutant, c'est que c'est faux. C'est que des rapports humains, il y en a. Et de la vie, il y en a. Et alors, voilà, c'est le double tranchant de la critique extrêmement radicale de ces grands ensembles, à savoir dire qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'une médiocrité totale de l'architecture et qui n'abîmerait pas les vies dedans, Kader Attia. Je trouve que c'est la très grande difficulté de cette critique architecturale, c'est-à-dire de n'en faire point l'histoire, de dire que ce n'est rien, que c'est un geste nul, que c'est un geste violent et carcéral, tout en continuant de dire, oui, mais il y a de la vie, il y a des gens, il y a des rapports sociaux, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une histoire de cette culture qui s'élabore dedans.
Bah, c'est le titre de l'exposition, les racines poussent aussi dans le béton. L'idée, c'est que si vous demandez à des étrangers qui arrivent à Paris ou qui restent à Paris et vous les rencontrez à l'étranger, de vous parler de l'architecture française, ils vont pas parler des barres HLM. Ils vont parler de cette architecture du 19e, haussmannienne, ou à la rigueur art déco pour ceux qui sont un peu curieux. Mais il y a une sorte comme ça de mur invisible qui sépare les périphéries, pas forcément au-delà du périphérique d'ailleurs. Il y a certains quartiers de Paris, comme sur la rue de Flandre, dans lesquels les touristes voilà, vont pas aller. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous dites, c'est que je crois pas que ça se porte seulement à l'architecture. Je pense que tout système qui tend finalement à appliquer à très grande échelle une idéologie, voire un ordre en fait, avec une certaine répression parfois, produit des contre-réactions en fait. De la même manière que, comme le dit très bien Françoise Vergès dans son livre « L'homme prédateur », en parlant des négriers, elle disait « Le pire de tout cela, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils inventaient une culture. Le jazz est né de l'esclavage. » Donc, je l'ai vécu comme ça, moi, de l'intérieur. En fait, finalement, quand tu grandis dans les quartiers, tu es effectivement dans la continuité du corps post-colonial, hein, dans le sens où il y a cette magnifique citation de Frantz Fanon, je crois, dans Les damnés de la terre, où comme tout psychiatre, il explique qu'il demande à certains de ses patients le matin de quoi ont-ils rêvé. L'un lui dit « j'ai rêvé que je courais et qu'un groupe d'hommes essayait de m'attraper ». L'autre, que je nageais dans la mer et un groupe d'assaillants essayait de m'attraper. Le troisième, je gravissais un mur pour m'enfuir. Le quatrième, je courais derrière l'autobus. Le cinquième, je m'exclamais de rire très fortement et gesticulais dans la rue et les gens me regardaient. Et Fanon dit, voyez-vous, le corps du colonisé essaie de s'évader tous les soirs, entre 10h jusqu'à 6h du matin. Parce que c'est un corps de muscles, en fait. C'est un corps qui est en fuite, en fait. Et ce corps de muscle, ce corps objectivisé, en fait, si je puis me permettre, contrairement à un corps subjectif dont on va reconnaître, c'est à mon sens l'héritage qu'ont eu les générations des enfants d'immigrés, en fait, qui se succèdent. Dans la mesure où, faut quand même essayer de comprendre que Les travailleurs immigrés, notamment algériens, qui viennent travailler en France après l'indépendance, et ils le font à contre-cœur. Il y a un sentiment d'humiliation incommensurable qui est vécu. Seulement, ils quittent un pays dévasté, où la famine tue. Les gens quittent les villages des Aurès, comme mes parents ou de Kabylie, pour nourrir la famille au village. Rester. Ils le font vraiment à contre-cœur. Ce sont des gens qui ont voulu leur indépendance. Donc, ils vont courber les chines. Et on connaît tous, nous, la génération de nos parents, qu'on appelle aujourd'hui les Chibani, qui va justement baisser la tête, qui va courber les chines. Et la génération qui vient après va se rendre visible avec peut-être un événement important, c'est la marche des beurs, en fait, au début des années 80, qui part de Marseille et qui traverse la France pour arriver à Matignon, une association qui part du sud et qui arrive un an après à Matignon avec 500 000 personnes. Bon, la France découvre que ces travailleurs immigrés ont des enfants, en fait.
Et qu'ils vivent là.
Et donc, ils ont parce qu'ils vivent là, qu'ils ont à un moment donné peu de choix d'exister à travers cette société. Là aussi, c'est le corps de chaque individu qui va essayer d'intégrer ce corps social, ce corps du récit national, parce qu'ils sont français, à travers le sport pour certains, le hip-hop pour d'autres, malheureusement pour certains la criminalité. On est toujours dans ce corps, en fait.
On est toujours dans ce corps, y compris par exemple lorsque 10 ans plus tard, une possibilité d'exister ou de gesticuler passera par l'usage trop fort de l'héroïne et que d'un seul coup, cette prise de conscience d'une nécessité d'être visible va se retourner contre une génération qui va se rendre invisible en mourant dans le silence total, parce qu'ils sont à la fois fils d'immigrés, consommateurs d'héroïne et morts d'overdose. Mmh. Et vous en parlez beaucoup, cette idée de l'invisibilisation, et c'est Olivier Marbeuf, par exemple, dans un des entretiens que vous produisez, Kaderata, dans cette exposition. Vous travaillez cette idée-là de la visibilité et de l'invisibilisation.
Absolument. La question de la visibilité, elle est exprimée par Olivier Marbeuf, par Amin Khaled aussi, qui est un homme de théâtre, et qui explique comment, à un moment donné, là aussi, comme Olivier, à travers la marche des beurs, une génération va se rendre visible. Mais là aussi, peut-être c'est une particularité, à mon avis, nécessaire à la réflexion et que l'art offre. Je cultive aussi les contradictions dans l'exposition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette œuvre qui est une phrase
écrite à la craie blanche
sur un mur blanc, et qui dit « Résister, c'est rester invisible ». Cette phrase m'a d'ailleurs été inspirée, je le dis pour nos auditeurs, pour vous, c'est important de le savoir, par une phrase qui avait été écrite sur la place Tahrir au Caire pendant le printemps arabe. Résister, c'est rester invisible. Que j'ai compris comme résister, c'est devenir viral en fait. C'est-à-dire rentrer dans le système et créer sa cellule d'indépendance. On pourra en parler après. Mais il y a effectivement ce paradoxe d'existence, ou cet oxymore, en fait, de la visibilité invisible. À quel moment on devient visible? Doit-on finalement être invisible aussi pour résister? Moi, je crois qu'il y a dans les archives qu'on a entendues une chose qui me paraît vraiment importante quand même, c'est l'idée qu'une révolution viendrait contre l'urbanisme.
En tout cas, elle naîtrait d'une révolte contre l'urbanisme.
Voilà. C'est quand même, pour moi, une réflexion très importante.
73.
Parce que c'est, exactement. Cette phrase est prononcée en 1973. Toutes les années 80 et les années 90 sont celles des émeutes, des quartiers. Elles ont eu lieu, ces révolutions. Mais le système dans lequel nous vivons ne les reconnaît pas. Lorsque Zied et Bouna finissent carbonisés dans un transformateur, vous avez aussi les émeutes de 2005. Ça passe complètement inaperçu.
Pas exactement, mais en tout cas, ça n'est pas transformé politiquement.
Ça n'est pas écouté politiquement. C'est-à-dire qu'on vit dans un système où, si vous voulez, comme le dit très bien Jalil Benani dans un des textes, on vous demande en fait d'avoir une subjectivité, alors que finalement tout ce que vous offre la société pour exister, c'est d'être un corps en fait, donc objectif. La société vous objectivise. Pour pouvoir faire partie du corps social, du corps national, vous devez être un corps. Pourquoi ? Parce que pour la majorité des gens qui ne sont pas très diplômés, les travaux offerts sont des travaux de corps. Pour les femmes, des femmes de ménage, de caissière, des travaux harassants, pour les hommes, travailler dans les chantiers, travailler à l'usine, etc. Or, la question de la subjectivité, c'est-à-dire écouter l'autre, c'est quoi ? C'est sentir la menthe, le clou de girofle, comprendre que la société française est diverse. Elle est nourrie d'une myriade de cultures. Et c'est pour ça qu'elle est formidable. C'est parce que nous sommes tous semblables que nous sommes différents. Vous pouvez inverser cette phrase. Je dis souvent aussi, par exemple, que j'ai appris l'ethnologie en descendant les cages d'escalier de mon immeuble à Garges-lès-Gonesse. C'est vrai. J'ai encore, jusqu'à aujourd'hui je le vois, en mémoire déjà enfant, des questions en face de petits rectangles installés en diagonale devant les portes de juifs séfarades. Et puis avec mes copains Philippe, David, j'ai fini par comprendre, parce qu'ils l'embrassaient à chaque fois qu'on rentrait chez lui, que c'était des mezouzas, les petites sourates du Coran plastifiées collées au-dessus de la porte, avec l'arrivée du sous-continent indien, les mantras en plastique vinyle collés sur le sol, trois feuilles d'un végétal absolument inconnu, très longue, collée avec un scotch marron au-dessus d'une porte. La diversité culturelle dans les banlieues, dans les quartiers en tout cas populaires, est pas prise en compte dans le grand récit national. On ne la voit pas, en fait.
Et c'est là que vous nourrissez une pensée paradoxale, donc intéressante, Kader Attia, c'est que à la fois il y a des corps qui sont objectivés, il y a des corps à qui l'on demande d'être objet, et en même temps il y a une résistance, d'où le titre de votre livre, c'est-à-dire que tout ce que vous décrivez là, c'est bien de la subjectivité, ce sont bien des pratiques subjectives, et en témoignent enfin, peut-être les révoltes, mais aussi des émanations culturelles, des vies, des parcours de vie qui sont quand même, qui résistent, pour certains, dans leur subjectivité. Vous ne produisez pas un discours Kader Attia qui serait que tout ça a réussi à totalement annihiler les sujets qui ont vécu dans ces endroits.
Oui, mais parce que c'est le propre de l'être humain, c'est de contre-réagir. On est lorsque il y a une histoire extraordinaire, par exemple, c'est après la campagne d'Égypte, en tout cas l'arrivée de Napoléon à Alexandrie, le sultan Mohamed Ali, Napoléon s'installe, il essaie de convaincre les Égyptiens d'accepter d'être pris en protection, protégé par les Français. Le sultan Mohamed Ali envoie en France, en 1814, donc bien plus tard, l'un des plus brillants étudiants de l'université Al-Azhar, qui s'appelle Al-Tahtawi. Al-Tahtawi, en fait, c'est un penseur qui est envoyé en France pour observer la société française et rapporter au sultan en quoi et pourquoi cette société est si puissante et si développée, etc. Et ce qui est extraordinaire dans ce voyage, c'est que après avoir passé 40 jours en quarantaine, en fait, à Marseille, en fait, il vit son premier moment sur le sol français en entrant dans un café à Marseille, et il découvre dans ce café des miroirs, en fait. Il voit son reflet dans un miroir, il continue de marcher, puis il le voit dans un autre miroir. Et il s'avance un peu, son reflet disparaît et réapparaît à droite, dans un autre miroir. Il est subjugué par cette multiplicité des reflets. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai lu ce travail à travers un genre littéraire qu'on appelle en arabe « rihla », qui est un genre très ancien, islamique, où les voyageurs, en fait, écrivaient leur carnet de voyage en vers, en fait, en poème. On voit comment sa prose, si je puis me permettre, se transforme au contact de cette modernité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport que va avoir la modernité, et d'ailleurs Walter Benjamin en parle très bien sur la poésie de Baudelaire, le rapport que va avoir cette inclusion dans le réel de ce contemporain va modifier sa façon de voir le monde et de nous le traduire, en fait. L'être humain n'est pas un animal passif, il passe son temps à contre-réagir, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte, à mon sens, pour revenir à notre époque, à toute la dimension, en fait, psychologique, voire psychanalytique de la société. Moi, j'ai toujours été surpris de voir que les gouvernements des pays dits puissants n'ont jamais eu de ministre de la psyché, par exemple. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où la psyché articule absolument tout.
Je ne sais pas si ce serait une extraordinaire idée, mais...
Oui, ça fait peur, effectivement. Mais si vous voulez, ce qui me paraît fondamental, c'est de tenir compte de cette nature humaine, en fait. Nature à contre-réagir.
Ce qui renvoie à l'un des interviews que vous avez avec Olivier Marbeuf, qui dit que ce genre de système produit, des principes systémiques produisent des principes psychiques, et c'est d'ailleurs l'une des progressions dans votre expérience. l'exposition Kadaratia au Macval en ce moment, c'est qu'on part de principes systémiques, de l'architecture, d'une genèse de ces architectures modernes, jusqu'à des vécus très sensibles et des vécus individualisés. Mais pour en revenir à ce que vous dites, l'être humain n'est pas passif, et on va dire l'instinct c'est de contre-réagir. Ça me renvoie avec beaucoup d'amertume et d'émotion à la présence de Théo Louaka dans cette exposition. Et au début du texte de Se défendre d'Elsa Dorlin, à savoir que parfois se défendre et réagir, c'est s'exposer à ce qu'on abîme son corps, voire à ce qu'on le tue. Pourquoi est-ce que l'arrestation agressive et plus que ça de Théo Louaka par des policiers est d'une certaine manière au cœur invisible ou au cœur dans le noir de cette exposition Kadaratia?
Parce que je crois que là aussi, là, tout à l'heure on parlait des
pas si invisible que ça, pardon, je vous coupe, pas si invisible parce que je me suis fait surprendre par cette vidéo que je n'avais pas vue, qui est la vidéo de l'arrestation, et qui intervient au milieu d'autres films où vous interviewez des personnes pour parler de tout ce qu'on vient de... Et donc elle n'est pas du tout invisible, je ne sais pas pourquoi je dis invisible, parce qu'au contraire, elle est très visible.
Alors c'est bien que vous me dites ça, parce que c'est ce que j'allais vous dire, elle n'est absolument pas invisible, elle est rendue invisible, elle est invisibilisée en fait. Elle est invisibilisée pourquoi? Elle est invisibilisée parce que le récit national hégémonique ne laisse pas justement la place à des contre-récits qui plus est lorsqu'ils sont supposés défendre les personnes justement opprimées. Je pense par exemple que l'affaire Théo a été totalement étouffée par cette énorme infrastructure qui est finalement le système médiatique, pour la simple et bonne raison que nous vivons une époque où je ne fais pas le procès du journalisme, hein, qu'on soit bien clair. Je parle juste d'un point de vue abstrait, en fait, de la manière dont nous sommes submergés d'informations, une information chasse l'autre. Et finalement, ce qui s'est passé, aussi grave soit-il, au coin de notre rue, eh bien, est balayé par d'autres news. Moi, ce qui m'importe dans le fait de reparler de cette affaire, c'est de me réapproprier le récit auquel je suis soustrait, en fait. Pourquoi? J'ai créé à Paris, avec plusieurs amis, un lieu qui s'appelle La Colonie, où on donne justement la parole à ceux qu'on n'entend pas. Il est, à cet endroit, une fois toutes les 5 semaines, une émission qui s'appelle Parole d'honneur, qui est créée par des jeunes de quartier de Théo, des amis de Théo, qui ont créé l'émission le lendemain, enfin 15 jours après l'arrestation, parce qu'ils en avaient marre d'entendre tout et n'importe quoi dans la presse. Donc il y a un groupe de jeunes des quartiers qui décide de se réapproprier son récit et de le partager. Vous pouvez être d'accord ou pas, hein, mais d'en parler. Je crois que c'est fondamental. Résister, c'est rester invisible, c'est ça en fait pour moi. C'est rentrer dans le système, faire avec, mais développer un contre-récit à l'intérieur du système. Et ce qu'on voit en fait dans cette histoire, dans ce film, c'est qu'il y a une généalogie. Olivier Marbeuf, Norman Ajari, pardon, le philosophe, cite un morceau d'un groupe de hip-hop, un lyrics notamment, qui dit « Ils ont les photos avant les souvenirs ».
C'est PNL.
On a les souvenirs avant les photos. Cette phrase, elle a vibré en moi, vous pouvez pas vous imaginer. Parce que moi aussi, j'ai été arrêté pour délit de faciès. Moi aussi, on m'a arrêté, emmené, parce que j'ai refusé de me faire traiter comme un chien.
C'est une histoire connue par le corps avant même qu'elle ne frappe le corps.
Exactement. Et c'est pour ça que ce film est important. Il est important parce que il essaie de recréer un ensemble, en fait. Il s'agit pas de nous voir, nous, les gens des quartiers, nous plaindre. C'est plutôt d'essayer de faire une généalogie de cette histoire, en fait, de ce problème, de cette violence. Et on se rend compte, à travers la voix de Norman Ajari, de Louisa Yousfi, qui a créé Parole d'honneur et qui connaît Théo, et qui, comme elle le dit, travaille régulièrement avec des jeunes victimes de violences policières, de faire une généalogie, d'essayer d'élargir un peu plus l'angle, de manière à ne pas traiter ça comme un fait divers dont la presse est finalement contrainte. Donc, ce qui est formidable, et c'est en cela que je crois beaucoup à l'art, et notamment à l'art contemporain, c'est que l'espace du musée, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, donne le temps de se poser et de réfléchir ensemble. On a 42 minutes d'interview.
48.
48, ah bah merci. Peut-être avec le générique, non?
Non, 48.
D'accord, bon, 48. Et On est amené au calmement dans un contexte où on a aussi d'autres œuvres plastiques, sculpturales qui permettent de ponctuer cette complexe question, à réfléchir sur pourquoi nous en sommes là et finalement, sans proposer de conclusion, qu'est-ce qui nous attend ? Parce que le problème de toutes ces questions, c'est lorsqu'on a les émeutes de 2005 et que je vous dis que finalement l'État n'en a pas tenu compte. On comprend pas en fait que tous ces germes, en fait, toutes ces problématiques qui ne sont pas traitées finissent par ressortir. On est là, alors là j'analyse presque la société comme une psyché pour le coup. Toutes ces névroses qu'on refoule, elles ressortent.
Quand vous tenez ce propos sur le musée, sur cet espace singulier qu'est le musée, il se trouve qu'on avait prévu de vous faire écouter plein de choses, donc Patrick Chamoiseau qui parle d'un assèchement de l'imaginaire politique et de la manière pour les artistes de reprendre le flambeau et par la voie de l'art ou de l'esthétique, une forme d'esthétique, de la poésie, de refaire circuler des propositions dans le savoir commun. Alors, Kader Attias, j'avoue que en cheminant dans cette exposition que vous avez pensée en effet comme une forme de très grand espace architectural, je me suis dit, quelque chose est à l'œuvre là qui dépasse très largement l'émotion esthétique qui peut avoir lieu face à certaines de vos œuvres, mais quelque chose est à l'œuvre qui me semble être un projet que je ne sais pas nommer.
Alors,
c'est-à-dire qu'on sent que vous prenez l'espace du musée pour y déployer autre chose que votre œuvre.
Oui. Bon, si vous voulez, depuis toujours, j'ai, dans ma pratique artistique, pas mis au centre du projet, en fait, la notion d'œuvre, d'ailleurs. Il m'arrive qu'elle soit centrale, mais si on se réfère à des œuvres, même qui ne sont pas dans cette expo, ou pourraient l'être comme cette marque fictive que j'avais créée de vêtements halal, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit bien que elle est créée en 2003 et elle annonce qu'il nous pète à la gueule 10 à 15 ans après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de pouvoir déplacer dans le musée, non pas décontextualiser, comme l'a fait admirablement Marcel Duchamp, un élément du quotidien dans le musée, mais plutôt ce que l'on ne regarde plus dans le réel. La barrière constellée de pierre, qui a été pendant 6 mois sur le terre-plein de la rue de Flandre, de l'avenue de Flandre entre Stalingrad et la porte de la Villette.
Paris 19.
Que j'ai vu, qui a été posé là pour empêcher aux réfugiés de dormir.
Pas que, aussi métro Stalingrad, métro Jaurès, ou un petit peu plus
absolument
loin, entre La Chapelle et Barbès.
Absolument. Mais qui constitue donc une architecture temporaire d'interdiction. Pour que, justement, ces réfugiés dorment dans le caniveau, en fait. Elle a été pour moi une source d'inspiration nécessaire pour dire un message. Il ne s'agit pas de faire une œuvre. Il s'agit de dire, si je vous montre ça dans un musée, vous allez peut-être plus le regarder. Parce qu'on ne regarde plus aujourd'hui. Encore une fois, une information chassant l'autre, on est noyé dans un flot d'informations. Or, ce qui est extraordinaire à notre époque, quand même, il faut en parler, parce que c'est une chose, à mon avis, extrêmement importante, c'est qu'il y a une fréquentation des musées qui croit.
J'allais vous dire, la question est de savoir qui est-ce qui vient dans l'exposition.
Voilà.
Maintenant.
Et exposer dans un musée vous engage donc, en tant qu'artiste, à une responsabilité. C'est normal.
Depuis toujours.
Depuis toujours, mais d'autant plus quand vous avez un propos politique. Et ce qui me semble, en tout cas moi je la prends cette responsabilité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens à mon avis, mais cette question de la responsabilité, elle est liée à la transmission du message que vous allez essayer de partager en fait. Et si vous voulez, on n'expose pas de la même manière au Macval, à Vitry-sur-Seine, qu'au Palais de Tokyo par exemple, où j'ai aussi une exposition avec mon ami Jean-Jacques Lebel. Dans les deux cas pourtant, on a réfléchi au Palais de Tokyo ou au Macval à essayer de réparer ces fragments de la société contemporaine en appelant à la généalogie du monde dans lequel nous vivons.
En faisant appel à un motif très récurrent dans cette exposition qui est l'agrafe qui ou bien répare un morceau de chaise déchirée ou bien des poutres de bois à Berlin qui sont fissurées en leur intérieur en proposant des entretiens par exemple avec un chirurgien qui va parler de la généalogie du geste qu'il fait et se souvenir que s'il fait ce geste de réparation c'est parce qu'on lui a transmis, ce geste de réparation cadavérique. Parce que pour vous, le lieu de l'art ou la pratique de l'art, c'est le lieu où l'on répare.
Absolument. Je pense que la notion même, en fait, d'une œuvre d'art fait passer aussi bien l'auteur que le reste de l'humanité d'un instant T à un autre. Et donc, de cet instant, dans ce mouvement, il y a un processus réparateur. On répare une situation qui était celle où cette œuvre était absente, en fait. Et c'est pour ça que lorsque je regarde aussi les œuvres des autres artistes, je ne pense pas, évidemment, systématiquement réparation. Mais je prends très fortement en considération le fait qu'après la création de cette œuvre, le monde n'est plus pareil. Elle est là maintenant, aussi nombreuse soit-elle. Mais ce qui m'intéresse, pour revenir à votre question sur le musée, c'est qu'il a effectivement aujourd'hui un impact sur. Je vais vous raconter une anecdote qui résume assez bien cela. Un jeune est venu me voir et m'a dit « Oui, j'ai vu ton expo, moi je suis dans un groupe de rap, dans le label de Rimka, est-ce que je peux te donner mon album ?» Parce que ton expo en dira un morceau de rap. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'on touche, à un moment donné, un public qui est là et qui est en attente de quelque chose. Ce fameux public qui, dans le secret des familles, a vécu avec des récits, souvent des contre-récits du grand récit national, mais qui, dans la rue, à l'école, n'entend pas ces récits-là.
Ou un public qui a vécu à la maison sans récit, parce que ça arrive aussi. Oui. Quand vous dites « en attente de quoi, c'est quoi ?»
En attente d'un écho de son histoire, en attente d'un lien qui le permettrait de le connecter. L'art est un miroir, mais plutôt en attente d'un écho qui le connecte avec le reste de la société. C'est ça le musée. Le musée vous connecte, en fait. On est tous ensemble au musée. On peut être de n'importe quel bord politique, de n'importe quel âge, de n'importe quel genre. Lorsqu'on se retrouve dans un musée ou dans une œuvre ou dans une exposition, dans une biennale, dans ce que vous voulez, vous êtes à un moment, vous n'êtes plus passif. Vous pouvez détester ce que vous regardez, mais vous réagissez. Et cette dimension presque cathartique, en fait, de l'œuvre d'art et de l'exposition enfin, pour moi, une motivation importante, effectivement. Cette notion de le spectateur. J'ai toujours mieux considéré le spectateur. C'est une des choses, par exemple, qui me plaît beaucoup. Souvent, ça arrive à beaucoup d'artistes. C'est quand vous êtes dans votre vernissage, parce que je vais quasiment jamais, pour ceux qui me connaissent, aux autres vernissages, à part vraiment chez des amis. Mais donc, être à mon vernissage, c'est toujours aussi une sorte de petite épreuve. J'ai un problème avec la foule. Et pourtant, vous rencontrez des anonymes qui viennent vous voir. Des gens qui ne sont pas du sacro-saint, comme on pourrait dire, du monde de l'art. Ils sont des anonymes, des amateurs, des retraités, des jeunes qui font leurs petits trucs dans leur coin et qui viennent vous parler. Et ça, c'est des moments extrêmement importants, pour ne pas dire précieux. Parce que ça vous fait avancer dans votre pratique, et notamment dans cette réparation du gouffre qui existe entre la pratique artistique et le public. Cette rupture qui a eu lieu, elle a existé, on le sait, peut-être même qu'elle existe encore dans certains domaines, avec le public, elle est quelque chose contre lequel je travaille.
Est-ce que c'est aussi le cas, peut-être pour terminer cet entretien, Kader Attia, avec le livre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'espace de l'exposition, est-ce que vous y déployez ou ce que vous y agitez comme pensée ? On a assez peu parlé, mais pourquoi pas, de l'espace du livre, qui est un espace qui, à mon sens, est beaucoup plus secret et qui aura vocation à quoi ? À circuler autrement ?
Alors l'espace du livre, effectivement, il est un espace, je dirais, presque privilégié, en fait. Parce que il étire l'événement, l'exposition, au-delà de l'exposition. Il est d'ailleurs, dans le cadre du Macval, un livre qui, bien qu'il porte le titre de l'exposition, est en soi une œuvre à part entière. C'est un projet dans lequel...
On n'y voit pas, on n'y trouve pas des œuvres visibles, en tout cas très très peu d'œuvres visibles dans l'exposition.
Très peu, c'est absolument pas un catalogue. C'est vraiment pour moi l'idée qu'il était temps de publier des photographies d'archives que j'ai réalisées il y a une vingtaine d'années en fait. Enfin, une vingtaine, je ne suis pas si vieux, il y a 19 ans, on va dire, ou 18 ans.
C'est pas hyper loin non
voilà.
plus.
Et où à l'époque, en tout cas, j'étais un peu plus jeune et j'étais sur mes roulettes. Et je passais, au retour du Congo, mon temps à arpenter avec un petit appareil photographique qu'on appelle un Lomo, solide comme un tank, l'espace urbain et notamment ce corps autre de Ménilmontant à Château-Rouge en passant par Garges-lès-Gonesse.
À Paris et en région parisienne.
Voilà, et donc on y voit un regard sur les hommes, sur les femmes de tous âges, de toutes origines. Et effectivement, peut-être un peu plus particulier encore, l'idée que ce livre était un moment où j'avais envie de me livrer au lecteur dans un rapport intime, puisque le rapport qu'on a avec un livre est un rapport personnel, en y associant justement des photographies très personnelles de mon enfance, etc.
Pour dire quoi ? En tout cas, pour dire quoi qui ne pouvait pas être dit dans l'espace du musée ?
Beaucoup de choses. Le fait que, finalement, quand vous vous livrez à quelqu'un que vous avez envie de connaître, vous racontez des choses personnelles. Donc, pour entamer un véritable dialogue, en fait. Le rapport, encore une fois, intime, quand vous avez un livre, vous le regardez seul. On n'est pas trois à regarder un livre en même temps. L'idée, c'était vraiment de donner une dimension intime au lecteur à travers mes photos personnelles. Des photos où on me voit enfant, aussi adolescent.
Des membres de votre famille.
Voilà, et qui devraient, en tout cas, je pense, fonctionner aussi comme un miroir chez le lecteur. Puisque quand on regarde, vous avez dit ça, je trouvais ça intéressant tout à l'heure, que l'œuvre d'art est un miroir. Lorsqu'on regarde une œuvre d'art, à un moment donné, on est en face d'un miroir. On la regarde en fonction de notre psyché, de notre grammaire, de notre histoire. Et lorsqu'on regarde des photos comme ça, très personnelles, je veux pas non plus trop en dire. J'ai envie de laisser là pour le coup un espace au lecteur et qu'il découvre. En ce qui me concerne, c'était vraiment l'idée de créer un livre qui, en tant que tel, pourrait être presque une œuvre dans l'exposition Les racines poussent aussi dans le béton, mais dont il me semblait que le format livresque, qu'on puisse emmener avec soi, le rapport à l'objet, les pages imprimées, devait vivre au-delà de l'exposition.
Voilà. Et ces corps photographiques, qu'il s'agisse du vôtre, de celui de votre famille ou des personnes dont l'image est capturée comme ça brièvement dans la rue, dans tous ces endroits-là, sont dans un livre qui va traverser le temps maintenant.
Voilà, qui est là donc. C'est une réparation aussi.
Merci beaucoup Kader Attia.
Merci à vous.
Les racines poussent aussi dans le béton, c'est donc le titre de ce livre, c'est le titre de l'exposition qui est visible en ce moment au musée du Macval à Vitry. Vous avez parlé à raison de l'exposition que vous faites avec Jean-Jacques Lebel, cette fois au Palais de Tokyo à Paris.
Rémi, je te raconte la vérité.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus rire?
La montée du fascisme.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait danser?
Soit je vais vous dire un bon verre de vin, soit je vais vous dire le rail, ouais.
Par les temps qui courent, vers où porte votre regard?
Au-delà de l'horizon.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec une rediffusion de l'entretien avec la romancière Isabelle Carré. Quand vous voulez, sur franceculture.fr ou en podcast. Au son, c'était Olivier Dupré, Lise-Marie Barré à la réalisation, Copelia Ménardi, Jeanne Aléos, Corinna Mar m'aide à penser cette émission et je réponds @MarieLescheux sur Twitter.
Et pour le nerf, ça te met des bananas. Quand le sang coule dans la street, on dit pas que la rue a ses ragnagna. C'est un pour ma mère, deux pour la maman. Wesh, ça fait deux voix, mais elle a aussi fait le rôle de papa. M'en voulez pas quand je parle de lui, mais son absence me fait du mal, je finirai peut-être bien par lui dire. M'en voulez pas si je nique vos lois, si c'est les mêmes pour tout le monde, dis-moi pourquoi c'est dur de s'appeler Moussa. Eh, pas l'habitude de faire du old school, c'est un peu des glingos comme voler le foulard d'un boy scout. Pas l'habitude d'appeler au secours, faut se défendre comme un homme et graille la concu comme un vautour. On m'a dit ça à ton tour, mais je sais même pas ce que je veux comme un guetteur, je fais des allers-retours. Et tu sais qu'en bas des tours, c'est souvent celui qui fait le grand, mon poteau, calme-moi la tête dure. Tu sais, y'en a qu'en voit la pure, y'en a qui vendent la pure. Y'en a qui se vendent de la hure, qui font droit dans le mur. Je répète, y'en a qu'en voit la pure, y'en a qui vendent la pure. Y'en a qui se vendent de la hure, qui font droit dans le mur. J'ai commencé, je finirai pas plus bas que terre. Mon cœur à fond, faut pas que j'oublie, pas de sentiments sur terre-terre.
Jamais.
Des amitiés qui dataient de la matière et qui sont parties en poudreuse un peu comme un bon bout de terre. Et ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé à péra. Je me rends compte de la valeur de la vie un peu comme un opéré. Et ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé à péra. Même si mon père était un Schmitt, j'aurais pas coopéré. Des fois je me dis que c'est la vie. Deux, trois minutes après, je me dis non, en fait, c'est la rue. Et je sais plus de quoi j'ai envie. d'un bon paquet d'argent ou taper dans un gros cas vu. Hein, serre les dents, souris, même si t'as des caries. On se pique à faire des ronds pour pas finir sur le carreau. Contrôle, si t'as quelque chose, bah souris, fais crari. Parce que même dans ce bas monde, y'a des descentes, le monde est haut. Moi, je suis honnête avec moi-même, laisse-moi, je serai sur ma comète. C'est pour les grands longues des terres, pour les petits rebeux sur compète. Mais poteau, faut qu'on parle, pourquoi tu voudrais pas mon bien? On vient de la rue, la vraie frérot, ça se voit sur le Philippe-Plein. Et tu sais pas ce qu'on peut te faire paper pour le salaire d'Mbappé. Ça peut séquestrer ta grand-mère juste pour se refaire une beauté. Les mots sont durs, je préfère quand l'émotion dure. On a le son dans nos rues parce que trop de frères à nous sont morts. Et j'aurais pu mettre un point, mais je peux pas m'arrêter.